L'association Hors la rue, c'est une association qui intervient auprès des mineurs étrangers en difficulté sur tout le territoire de la région d'Île-de-France, quoi qu'il peut le faire sur toute la... On n'est pas territorialisé sur un département comme, ou sur une commune comme beaucoup de services sociaux. L'association a été créée il y a une dizaine d'années, donc à la suite des premiers mineurs... enfants des rues de Roumanie qui venaient vivre sur Paris. Et elle est issue de l'association Parada qui travaille avec les enfants des rues de Bucarest. Donc on a historiquement un lien fort avec la Roumanie, ce qui fait aussi qu'on travaille pas que avec des enfants roumains, mais avec aussi beaucoup d'enfants et de jeunes roumains. Je ne vais pas présenter l'association trop longtemps, mais juste vous dire qu'on a un centre de jour où les mineurs peuvent venir sur le principe de la libre adhésion. Et qu'on fait des tournées de rue pour aller à la rencontre des jeunes les plus en errance et les plus éloignés du droit commun. Et suite à la rencontre de ces jeunes-là, on peut être amené, si les jeunes sont d'accord, à intervenir sur les bidonvilles pour aller rencontrer leur famille, voir leur lieu de vie et travailler avec eux aussi sur leur territoire d'habitation et pas que sur leur territoire d'errance. Donc, de par l'émission de notre association, on travaille depuis 10 ans avec de nombreux jeunes vivant en bidonville, et certains depuis presque 10 ans, et nombreux d'entre eux n'ont jamais été scolarisés ou alors ont été très très peu à l'école. Ces blocages sont souvent considérés comme culturels, venant d'un choix des familles, mais ils ont en fait le résultat de politiques d'expulsion des bidonvilles et de non-reconnaissance de ces enfants et de ces familles. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas leur présence sur le territoire, comme a commencé à dire Alexandre. Depuis une dizaine d'années, et peut-être même plus, mais après moi j'étais peut-être trop jeune, mais la France crée des générations de jeunes exclus du droit commun, exclus de la scolarisation, alors que celle-ci est obligatoire jusqu'à 16 ans, et que c'est un des droits fondamentaux des droits de l'enfant. Donc c'est important de faire un état des lieux d'abord un peu des blocages institutionnels, mais aussi après de se placer du point de vue de ces enfants, de ces jeunes et de leur famille, et de quelles sont leurs difficultés aussi pour eux d'aller à l'école. Sur les blocages institutionnels, j'ai séparé un peu en deux parties sur le primaire et sur le secondaire, parce que ce n'est pas les mêmes démarches administratives, donc ce n'est pas forcément les mêmes réponses et les mêmes blocages, bien qu'il y ait quelques similitudes. En primaire, les blocages les plus importants viennent des mairies qui ne veulent pas voir s'installer de bidonvilles et de pauvres chez eux. Donc du coup, prétexte, comme tu le disais, des manquements administratifs, notamment des manquements de la domiciliation. Il faut savoir que c'est inscrit dans le code de l'éducation que la domiciliation n'est pas indispensable et que la simple présence d'un enfant en âge d'être scolarisé sur le territoire, qu'il ait une domiciliation ou pas, sa simple présence fait que normalement il devrait pouvoir être scolarisé. Après, il y a aussi le fait que les municipalités doivent recenser, comptabiliser les enfants en âge d'être scolarisé sur leur territoire. Avant chaque rentrée scolaire, afin de faire le point, j'imagine, avec l'académie pour ouvrir ou fermer des classes. Et que bien que les enfants vivant sur les bidonvilles sont quand même largement recensés par les forces de l'ordre en général, ces enfants-là ne sont pas comptabilisés. Et du coup, il n'y a pas non plus les infrastructures qui pourraient être mises en place pour les accueillir dignement à l'école qui sont pensées. Ensuite, il y a aussi les exclusions de la cantine ou des activités périscolaires qui sont liées à l'exclusion sociale des familles, c'est-à-dire que les municipalités vont prétexter que les familles n'ont pas les moyens de prouver qu'ils n'ont pas de revenus parce qu'ils ne sont pas suivis par une assistante sociale, parce qu'ils n'ont pas fait les déclarations d'impôts, parce que du coup, ils n'ont pas accès au quotient familial. Et donc, comme ça, il y a des enfants qui devraient aller à l'école le matin, ne pas manger le midi et rentrer ou manger mal, ou peu, ou trop peu, et rentrer à l'école l'après-midi. Il y a une autre des difficultés qui est largement liée aux expulsions ou au changement d'hébergement 115 pour les familles qui sont hébergées en 115, c'est que l'éducation nationale ne suit pas ces enfants. Et c'est-à-dire qu'à chaque déménagement, s'il y a impossibilité de se rendre à l'école, ça va être aux familles de se remobiliser pour réinscrire leur enfant dans les écoles les plus proches. Et ce qui est aussi compliqué pour les enfants eux-mêmes, parce que changer d'école pour un enfant, c'est être en rupture de lien avec les copains qui s'est fait, avec l'équipe enseignante. Et ça, c'est forcément plus difficile dans les apprentissages. Après, sur ce qui concerne les papiers, ce que je disais tout à l'heure, les papiers qu'ils demandent, il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles aussi qui, de par les expulsions et la vie en bidonville, perdent leurs papiers. Soit parce que les expulsions se font hâtivement et que les forces de l'ordre ne sont pas forcément très attentives à ce que tout le monde puisse récupérer leurs affaires, soit aussi parce qu'il peut y avoir des incendies, des problèmes d'inondation ou d'autres intempéries. Mais aussi, ça arrive que certains policiers zélés, lors de contrôles d'identité, fassent un peu d'excès de zèle et déchirent des papiers d'identité des jeunes, les mettant du coup encore plus en difficulté administrativement. Concernant la scolarisation en secondaire, donc, c'est-à-dire le collège et le lycée, faut savoir que pour tout enfant étranger qui n'a pas été scolarisé en France ou peu été scolarisé en France, qu'il soit francophone ou non, il doit passer un test au centre d'information et d'orientation. Ça, c'est pour la banlieue. À Paris, c'est le CASNAV qui s'en occupe. Et ensuite, c'est ces institutions-là qui vont donner une affectation dans un établissement. Donc, une des difficultés au niveau de ces affectations, c'est que bien souvent, elle dépend de la domiciliation administrative. Sauf qu'en banlieue, particulièrement, parce qu'à Paris encore, il y a les moyens de transport et ça reste relativement gérable, mais en banlieue, les moyens de transport sont beaucoup moins importants et les domiciliations administratives aussi. Et du coup, si un enfant, par exemple, est scolarisé là où il y a sa domiciliation administrative et que sa ville est à 10 ou 20 km, mais qu'il n'y a pas forcément de bus, de RER ou que l'enfant ou le jeune adolescent doit mettre 2 heures pour aller à l'école, ça pose de grosses difficultés. Les affectations aussi prennent énormément de temps. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est à peu près 3 mois dans certaines académies, sachant qu'une expulsion peut être beaucoup plus rapide. Donc ça arrive assez souvent qu'un jeune ait son affectation et un mois auparavant ou un mois par la suite, il se retrouve expulsé. Donc à devoir tout recommencer. Et là encore, il n'y a pas de suivi de ces scolaires. Et donc, du coup, les jeunes ils doivent tout recommencer, se remobiliser pour aller passer des tests qu'ils ont déjà passés. Et du coup, c'est toujours, quoi, voilà, toujours, c'est un espèce de circuit qui ne les aide pas. Voilà. Merci. Il faut savoir aussi que pour le secondaire, une des autres difficultés, c'est que c'est la rentrée au collège. La rentrée au collège, pour tous les enfants, ça peut être un moment assez difficile. C'est le moment de l'adolescence qui, pour beaucoup de personnes, peut être un moment difficile. Et que pour ces jeunes-là, bah, ça se rajoute aussi aux discriminations qu'ils peuvent subir, aux préjugés, voire au racisme qu'ils peuvent subir à l'intérieur de ces établissements scolaires. Et voilà. Et j'ajouterais aussi, mais comme tu as commencé à le dire, pour les travailleurs sociaux, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, en fait, et donc pour le personnel de l'éducation nationale aussi. On vit dans une société où il y a beaucoup de préjugés et de stéréotypes qui sont véhiculés, et du coup, les adultes aussi, les enseignants aussi, les travailleurs aussi, peuvent aussi avoir ces préjugés-là et renvoyer une image négative auprès des jeunes scolarisés. Ensuite, vous allez plus parler aussi des difficultés pour du coup ces enfants et ces adolescents et leurs familles pour aller à l'école. Donc, bien sûr, la première difficulté, c'est les conditions de vie. Vivre dans un bidonville, c'est ne pas avoir l'eau, ne pas forcément avoir l'électricité, ne pas avoir les conditions d'hygiène de base. C'est-à-dire que ça amène des enfants à aller à l'école avec des vêtements pas propres comme ils le voudraient, pas en bon état comme ils le voudraient, avec des chaussures avec de la boue, ce qui crée aussi une mauvaise estime de soi pour eux, qui se considèrent d'une manière un peu plus mauvaise. Faut savoir aussi que la vie en bidonville amène plus de risques concernant les accidents de la vie, de par les lieux où habitent, où sont placés les bidonvilles, proches de voies ferrées, proches de voies routières où il n'y a pas forcément d'accès, donc il y a plus d'accidents qui peuvent amener à des décès, qui peuvent du coup causer des traumatismes chez les personnes et les enfants restants, que ces traumatismes-là ne sont pas forcément pris en charge. Et qui peuvent aussi conduire des retours dans le pays d'origine pour pouvoir procéder aux funérailles de la personne et qui, du coup, vont faire rupture avec la formation ou avec la scolarité actuelle. Les transports aussi sont un gros problème. Comme je disais tout à l'heure, les familles n'ont pas de ressources pour payer les transports. Et même quand elles en ont, il y a une... Les transports, nous, on l'observe dans notre travail quand on est avec des groupes de jeunes. Les transports sont vraiment un lieu où il y a une forte discrimination de ces gens identifiés comme roms, et notamment chez les enfants, même très jeunes, certainement véhiculés par les médias. Ce qui complique beaucoup les choses, et nous, ça nous est arrivé qu'un groupe de jeunes qui venait régulièrement à l'association, qui venait d'un bidonville assez éloigné de Montreuil, pendant un moment, ils ne venaient plus parce qu'en fait, ils se faisaient harceler à la gare du Nord par les contrôleurs, la RATP Sûreté et toutes sortes de gens comme ça, en leur demandant de toujours justifier des papiers. Alors, c'était des jeunes qui, en plus, ne parlaient pas très bien français et qui se retrouveraient vraiment... traités comme des délinquants, alors qu'en fait, ils allaient à une association pour prendre des cours de français, pour faire des activités en vue d'aller à l'école. Un constat aussi qui est assez inquiétant, c'est que de par la multiplicité des expulsions, les bidonvilles sont de plus en plus éloignés des centres-villes et des équipements, donc les bidonvilles sont de plus en plus éloignés aussi des écoles. Et du coup, ça complique aussi largement l'accompagnement, notamment chez les plus jeunes, pour aller à l'école. Notamment, pendant un moment, il y avait un petit garçon qui était très, très motivé pour aller à l'école, qui était bien suivi par toute sa famille dans ce projet-là. Mais la mairie ne voulait pas payer la cantine et l'école était à 30 minutes à pied du bidonville. Donc ce petit garçon, à 8 ans, il faisait 2 heures par jour de trajet à pied avec sa maman qui était en mauvais état de santé pour pouvoir se rendre à l'école, retourner au bidonville, manger un petit peu et retourner à l'école l'après-midi. Bien sûr, il y a aussi des problèmes de sommeil dans les bidonvilles, du fait de leur emplacement déjà, parce qu'il y a beaucoup de bidonvilles qui sont proches des autoroutes où il y a un bruit incessant, ou des voies ferrées où il y a un bruit incessant. La promiscuité aussi des baraques, et la promiscuité à l'intérieur des baraques. On n'a pas les mêmes besoins de sommeil selon les âges, et on n'a pas les mêmes envies d'activité selon les âges. Or, si on habite tous au même endroit, c'est un peu plus compliqué. La difficulté pour les enfants de faire leurs devoirs, toujours due au manque de place, mais aussi au manque d'électricité. Ensuite, pour beaucoup de jeunes qui se marient tôt, qui font des enfants tôt, la difficulté aussi, c'est qu'il n'y a pas d'accès aux gardes d'enfants, puisque, comme tu le disais, En France, on n'a rien prévu pour les mineurs qui ont des enfants. C'est quoi, voilà. Soit c'est une jeune femme, elle est toute seule, et puis elle est d'accord pour aller dans un foyer maternel avec son enfant. Et encore, normalement, pour aller en foyer maternel, ce qu'on nous répond souvent, c'est qu'il faut qu'il y ait des difficultés dans le lien à l'enfant, alors que bien souvent, il n'y en a pas forcément. C'est juste qu'il y a de la précarité, mais... Donc du coup, il n'y a pas forcément d'accès pour ces jeunes filles et ces jeunes garçons pour qu'ils puissent mettre leurs enfants, par exemple, en crèche. Du coup, ce qui conduit à ce que souvent les jeunes femmes, elles vont rester avec les enfants pour s'occuper d'eux, et que les jeunes garçons, eux, vont trouver des moyens de débrouille pour pouvoir ramener un petit peu d'argent pour pouvoir nourrir leurs enfants et leurs familles. La précarité aussi amène une pression économique, c'est-à-dire que quand la première chose, quoi, quand on n'a pas à manger, quand on n'a pas de quoi se vêtir, c'est-à-dire que toute la famille va être amenée, que les parents soient demandeurs ou non, toute la famille va avoir pour mission d'amener un petit peu de quoi survivre. Et un autre aspect aussi, c'est que qui n'est pas forcément pris en compte par l'éducation nationale, c'est que bah, les parents de ces enfants-là, eux-mêmes ne sont pas allés à l'école ou sont très peu allés à l'école ou sont allés à l'école dans des pays où, bah, comme c'était dit ce matin, dans des pays où l'école c'est un lieu de discrimination, où ils sont mis à part, ils sont considérés comme des handicapés ou je ne sais quoi. Et que du coup, bah, l'école doit aussi travailler avec ses parents pour leur expliquer et ne pas faire preuve de préjugés. Quoi, voilà, il y a à travailler sur les deux préjugés, les préjugés des parents comme les préjugés des enfants. Donc les conséquences, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on constate qu'aujourd'hui, il y a des générations d'enfants qui ont été sacrifiés, parmi lesquels certains n'ont jamais été scolarisés, alors que ça fait 8 ans qu'ils sont en France et qu'ils sont toujours en âge d'être scolarisés. Et que cette déscolarisation, elle entraîne des prises de risque de la part de ces enfants, qui peut se traduire par des activités de délinquance, de prostitution, voire qui peuvent se retrouver exploités par d'autres personnes malveillantes. La grande précarité de la vie en bidonville, qui est largement accentuée par les expulsions à répétition, a pour conséquence que les parents sont d'abord préoccupés par la gestion du quotidien, et répondre aux besoins primaires de la famille. En plus de ça, le fait que ce soit des familles en migration, bah, les enfants, eux, ils s'adaptent vachement plus vite, parce que quand on est enfant, on s'adapte plus vite que quand on est adulte. Ils apprennent plus facilement la langue, les codes. Donc il y a aussi un décalage sur l'autorité des parents par rapport aux enfants. Et donc de plus en plus d'enfants peuvent se retrouver à passer des heures dans la rue, où ils ont plus de risques de rencontrer des personnes malveillantes. Et le fait d'être en situation de précarité financière peut les amener aussi à commettre des actes dangereux pour eux, sur le plan physique et sur le plan psychique, dans le but de gagner un petit peu d'argent. Une chose aussi dont on parle peu, parce que pour le moment c'est très peu étudié, donc c'est pas reconnu, c'est les traumatismes que procurent ces expulsions, et notamment chez les plus jeunes, et aussi chez leurs parents. Et nous, on voit des familles avec lesquelles on travaille depuis vraiment plusieurs années, et on les voit un peu tomber. Alors il y a des moments où ils se relèvent. Mais en fait, à force de devoir toujours tout recommencer, à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, qu'on y croit, y a une expulsion, il y a un accident qui fait que tout va recommencer, tout va devoir être recommencé à zéro. Bah, c'est des gens qui ont de moins en moins d'espoir et qui ont des états dépressifs qui ne sont pas accompagnés là-dedans. Et notamment, je pense à un jeune qui arrivait en France en 2008. Il avait 9-10 ans quand il est arrivé. Il a été scolarisé avec difficulté, et après il a été suite à des expulsions, il a été déscolarisé, rescolarisé, et du coup peu à peu il s'est découragé, et il a nourri vis-à-vis de la société française une certaine colère, comme certains jeunes des quartiers populaires ont pu nourrir la même colère d'être toujours enfermé dans les stéréotypes liés à ses origines. Et aujourd'hui, ce jeune, il se retrouve dans une situation où il subvient à ses besoins, mais de manière totalement illégale, et où il prend des risques considérables sur sa liberté et sa sécurité. Et j'aimerais dire aussi que ces enfants, et comme beaucoup, je pense, des volontaires de Rome Civique le montrent, ils ont, pour le moment en tout cas, vocation à vivre en France, à s'installer en France et à rester en France. Et que certains d'entre eux, ils sont quasiment jamais retournés en Roumanie depuis leur départ. Et certains d'entre eux parlent mieux le français qu'ils parlent le roumain. C'est-à-dire que vu que la langue maternelle, c'est le romanais, ça ils ne le perdent pas. Mais par contre, sur la maîtrise du roumain, certains d'entre eux parlent mieux le français que le roumain aujourd'hui. Et que, contrairement à ce que Manuel Valls dit, ils ont vocation à rester ici, en tout cas pour le moment, et s'ils le choisissent. Donc en conclusion... En conclusion, par rapport à l'insertion de ces jeunes, qui bien sûr doit être faite par la scolarisation et par la formation, l'accès au travail, une des premières choses, c'est l'arrêt des expulsions. C'est que les personnes soient reconnues sur un territoire, parce qu'elles sont sur un territoire. Il y a des familles, elles sont sur une commune depuis 10 ans. Alors, elles ont fait 10 bidonvilles, voire plus sur le même territoire, mais ça fait 10 ans qu'elles sont sur ce territoire-là et que la municipalité ne les accepte pas, ce qui fait qu'il n'y a pas de suivi social, il n'y a pas de scolarisation. Et voilà, on leur met des bâtons dans les roues et on leur enfonce la tête sous l'eau pour qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Donc l'arrêt des expulsions, ça permettrait justement qu'ils puissent avoir accès au suivi social et à l'ouverture de leurs droits. Et ça leur permettrait une stabilité dans le présent afin de pouvoir se projeter dans l'avenir, avec le soutien bien sûr des institutions et des associations intervenant quand besoin il y a. Voilà.